Radioscopie. Radioscopie.
Christiane Singer.
Jacques Chancel. À travers vos livres, il y en a cinq, Christiane Singer, au hasard de votre vie, vous semblez vouloir faire la preuve qu'il y a chez vous toute la passion du baroque, tout l'amour d'une liberté, je dirais peut-être facilement conquise, et vous avez eu, me semble-t-il, tous les moyens de vos fièvres romantiques. C'est ce que j'ai cru comprendre en vous lisant, c'est-à-dire vous me paraissez être, par rapport à l'écriture, par rapport aux histoires que vous racontez, une privilégiée de la vie. Alors, peut-être suis-je en train de me tromper déjà dès le départ.
C'est très gentil de le dire néanmoins, mais j'ai en effet eu le privilège d'avoir dans les veines toute l'Europe et toutes les aventures imaginables, puisque j'ai aussi bien un grand-père ukrainien qu'une vie passée à Marseille, donc du
née
monde slave. Je suis née à Marseille, une Marseillaise passionnée, une régionaliste acharnée, féroce, comme d'ailleurs la plupart des choses que je suis. Et il y a une telle diversité d'influences qui m'ont déterminée que vraiment, je crois que j'aurais été un cas si je n'avais pas eu d'imagination.
Alors, il y a l'Ukraine, il y a Marseille, il y a l'Autriche, il y a la Hongrie. Et d'ailleurs, vous vivez en Autriche.
Oui, curieusement, le destin m'a amenée de façon aventureuse en Autriche où je suis mariée. Oui.
Alors, avez-vous dans votre vie toutes les aventures qu'il y a dans vos livres?
Peut-être bien davantage même, vous savez, je crois que c'est très
c'est
limitatif ce que vous me dites.
C'est l'imaginaire qui est au-delà.
Ah, mais certainement, non, je pense qu'on est toujours en deçà. Non, vous ne pensez pas?
Je ne sais pas, moi, c'est votre vie qui m'intéresse.
Non,
parce que c'est vrai, vous réveillez toutes les époques. Je regarde un peu vos livres, vous réinventez tous les personnages. Et je serais tenté de dire que, d'une manière générale, vous refusez notre fin de siècle. Vous n'êtes pas bien dans ce siècle.
J'y suis bien également.
Mais vous ne vivez au 7e siècle?
Oui, mais c'est une façon d'éclairer aujourd'hui aussi. Ce n'est pas une complaisance au passé. J'évolue dans, par exemple, ce 7e siècle de la guerre des filles comme aujourd'hui. Enfin, je n'ai pas le sentiment d'une distance entre ces univers. Et je m'y promène tout à fait à l'aise et je suis toujours très décontenancée quand on me dit que j'ai écrit mes deux derniers livres sur des époques révolues, parce que je m'en étais pas aperçue du tout. Et je pense comme dans certaines religions orientales où on nous dit que tout a lieu en même temps et que notre petitesse humaine ne perçoit de la panoplie du temps que cette espèce de minute que nous passons maintenant ensemble, par exemple. Et en vérité, tout a lieu en même temps. Et j'ai souvent le sentiment de tomber dans ces univers différents, d'y évoluer, et de n'être décidément pas faite pour le moment immédiat seulement. Mais que je m'y bats. Et dans d'autres époques, j'ai l'impression de me laisser tomber, d'être beaucoup plus chez moi après.
Donc le baroque, c'est la réalité?
Oh, très certainement. Il n'y a certainement pas de distance entre notre imaginaire, entre le foisonnement des possibles et la réalité. La réalité telle que nous la vivons et que nous la subissons est en vérité le rêve que fait une classe au pouvoir et qu'elle projette et qu'elle nous impose. Et le monde est toujours un rêve que font des hommes ensemble. Tout se crée autour de l'imagination. Il n'y a pas une seule culture ou une seule civilisation qui ne se soit pas créée autour d'un rêve, autour d'un récit, autour d'images. Donc, il n'y a vraiment pas... C'est une folie de voir une séparation entre la réalité et le rêve. C'est tissé de les mêmes vibrations.
Christiane Singer, dans vos livres, on voit que vous êtes souvent en révolte. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque vous êtes arrivé dans ce studio, vous m'avez dit, je suis ici à Paris, Je vois que les gens sont organisés, marchent, quêtent, font les achats, c'est-à-dire sont tout à fait structurés. Et vous n'aimez pas tout cela. Vous aimez le grand large, les grands espaces, la nature redécouverte.
Absolument, non, je n'aime pas tout ce qui est convenu, conventionnel, toutes les formes d'existence qu'on nous impose de l'extérieur et dont la plupart des êtres s'accommodent malheureusement.
Mais ils sont obligés parfois de s'accommoder. Vous êtes encore une privilégiée de ce côté-là, peut-être. Vous avez pu choisir vos espaces du côté de l'Autriche, dans un tout petit village où il y a une trentaine d'habitants.
Vous savez, il faut prendre ces rêves pour ce qu'ils sont
Oui.
vraiment et sont des réalités. Si on arrive, si, il faut, y a, y a vraiment. Il n'y a rien qui empêche de vivre ce que nous souhaitons d'une certaine façon.
Ce que vous vivez, vous l'avez souhaité, vous l'avez
Mais
voulu.
bien sûr, je l'ai voulu et à l'instant où je ne le voudrai plus, je changerai d'existence. Enfin, ce ne sera pas ma première incarnation.
On peut dire que toute votre vie jusqu'à présent a été vraiment voulue par vous. Vous avez suivi des chemins que vous aviez personnellement dessinés.
Surtout les dernières années où j'ai découvert au fond que les grandes aventures que j'attendais de l'extérieur, autrefois adolescente ou jeune femme, me viendraient de l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, on vit dans une liberté infinie, puisqu'on projette à l'infini les images qu'on désire, qu'on souhaite.
Lorsque vous étiez par exemple à Marseille, quels étaient vos rêves d'enfant? C'était à ce moment-là que vous dessiniez votre parcours. Ou du moins que
Oui, il
vous
y
le
avait aussi
rêviez.
une grande. Vous savez, je ne voudrais pas donner l'impression que je rêve mon existence, que je la projette dans l'avenir. J'ai une passion de l'instant que je cueille, que je vis à fond, que j'essaie de traverser le plus intensément possible. Mon existence n'était pas faite de projection dans un avenir problématique, mais toujours d'un engloutissement dans le moment présent. Je vis passionnément ce que je vis, où que ce soit. Quelle que soit l'époque.
Alors je disais tout à l'heure, Christiane Singer, qu'il y avait 5 livres, c'est déjà un commencement d'œuvre. Il y a eu le premier, Les Cahiers d'une hypocrite. Bon, puis là, je ne sais pas, vous avez marqué un temps d'arrêt, vous avez une traversée du désert à un certain moment de votre vie, peut-être une traversée heureuse, c'est-à-dire le moment où on s'interroge, on se dit, je n'écrirai plus.
Oui, j'ai eu pendant 10 années, en effet, je n'ai plus écrit, mais ce
Pourquoi?
sont les années où j'ai vécu
Ah.
avec une très très grande intensité. J'avais le tempérament d'écrire. J'ai écrit depuis ma toute tendre enfance. En fait, c'est une forme d'expression qui correspond tout à fait à mon être. J'en avais vraiment un besoin très 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 fort.
Et vous écrivez en
Mais
français, hein?
bien entendu,
Comme il
mon
y a
Dieu,
toutes
mon
les
Dieu, mon
langues dans
Dieu.
votre vie, on
Oh
pourrait
non,
également
non, non, mais
s'étonner.
il y a une seule langue dans laquelle on écrit. On peut avoir diverses langues, mais il y a une seule langue dans laquelle, oui.
Vous êtes arrêté
Je me
donc.
suis arrêtée, happée par la vie. Enfin, il y a eu une période, celle de la. J'ai fait des études de lettres, et ensuite, ça a été l'époque qui a happé notre génération, enfin les années 68.
68.
Et nous avions évidemment une toute autre perspective d'existence. Il ne s'agissait pas de réaliser sa petite œuvre personnelle, mais de se laisser entraîner dans le flot de son époque, et j'y étais évidemment emportée, dévorée, et je suis aussi, par la suite, j'ai ressurgi de mes cendres, si je
Mais
puis dire.
l'écriture ne vous a pas manqué pendant cette période?
Non, 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 la vie prime toujours sur l'écriture. Ça, c'est une chose qui parfois me chagrine. Je me dis, mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas envie d'écrire quand je n'écris pas? Mais malheureusement, non, 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 c'est une.
Alors il y a eu les autres livres, Vie et mort du Beaufrou, ensuite il y a eu Chronique tendre des jours amers. Alors là, je veux dire, vous commencez par faire le retour à ce que vous êtes, peut-être vous avez choisi une fois pour toutes votre vraie famille, et la vraie famille n'est pas toujours celle qui vous est donnée par le sang, elle est peut-être faite justement au hasard des rencontres. Je crois que les grandes familles, ce sont celles-là.
Absolument, absolument. C'est au fil de l'existence se forme une identité. À partir de cette chronique tendre des jours amers, j'ai trouvé une forme d'écriture qui correspondait au rythme de ma vie, qui n'était plus en marge. Et ça s'est produit après de longues années d'enseignement où j'ai été confrontée aussi bien aux problèmes de l'écriture qu'aux rencontres humaines de façon très, très intensive.
Alors vous dites, j'ai trouvé un rythme d'écriture. L'écriture, on l'a en soi, ou alors il faut la trouver, il faut
Oh,
la découvrir, il faut
l'écriture,
la réinventer.
c'est un artisanat comme comme un autre. J'ai un rapport très artisanal à l'écriture. J'ai hérité d'un grand-père ébéniste d'art et d'un père architecte qui avaient tous deux un amour éperdu de la belle œuvre, l'amour de la perfection, de travailler le matériau jusqu'au bout, en fait, et ce rapport aux matériaux de la langue. Et je pense que lorsqu'on a trouvé dans son existence un matériau, on est sauvé, parce que tout ce qui est la forme dans laquelle se dessine votre imaginaire, vos projections, est évidemment déterminant.
Alors, on pourrait dire de votre écriture, Christiane Singer, qu'elle est enluminée. Si on voulait vous agacer, on pourrait ajouter que c'est une coquetterie, mais vous avez eu la bonne idée de dire que vous étiez un artisan d'abord.
Absolument, oui.
On peut parler des enluminures, quoi, des riches heures.
Oui, mais j'ai quand même une perspective de lutte dans ce que j'écris. Je vous disais tout à l'heure que je pourrais vivre parfaitement sans écrire, et je le fais pendant de longs laps de temps. Mais il y a évidemment une exigence de faire passer des choses, de parler le monde. Et l'une des exigences qui s'impose à moi de plus en plus est une lutte contre la forme d'existence à laquelle la plupart des êtres sont soumis, comme nous le disions tout à l'heure, et qui est vraiment une amputation des moyens qui sont en nous. Enfin, nous sommes aux possibilités de l'homme ce que sont les oies domestiques de la basse-cour à leurs sœurs, les oies sauvages.
Enfin, nous vivons avec une
telle bribe de nos possibilités. Et plus je le découvre, plus cela me devient sensible aussi par le type d'existence que je mène ces dernières années. Qui est très proche de la nature et d'un tout autre rythme d'existence. Et ma protestation s'amplifie avec le temps, et le désir de communiquer à d'autres cette impatience, cette indignation de voir toutes ces possibilités qui sont dans l'être détruites par l'existence encadrée par une technobureaucratie de plus en plus étouffante et de plus en plus angoissante.
Et vous pensez que de plus en plus les hommes sont enchaînés?
Ah, de plus en plus leur imaginaire est brisé. Nous déléguons sans cesse nos pouvoirs. Toute notre société est fondée sur ce fait de déléguer des pouvoirs à d'autres. Il y a sans cesse des intermédiaires entre nous et les choses, entre nous et ce que nous portons en nous. Que ce soit le vécu de notre corps, tout le monde interpose entre son corps et lui le corps médical et toutes les forces officielles qui lui indiquent comment agir avec ce corps, n'est-ce pas? Et personne ne se met à l'écoute, n'ose encore se mettre à l'écoute totale de lui-même.
De lui-même.
Se laisser tomber, se dire telle ou telle maladie, telle ou telle angoisse est un appel au secours de mon corps, et je dois lui parler. Qu'a-t-il à me dire? Restons ensemble, parlons. Acceptons, laissons-nous tomber dans cette maladie, par exemple. C'est un simple exemple que je donne. Le rapport de notre société à tout ce qui est, tout ce qu'on qualifie de négatif, d'inutile, de mauvais à vivre, justement les angoisses, les maladies, et qu'on traite immédiatement avec force chimie, sans oser les traverser. Ah oui. Nous n'osons plus la traverser des choses. Donc, dans nos existences, plus rien n'a lieu.
Nous sommes dans un siècle de médicaments.
Absolument, d'esquive.
Oui,
nous
de
esquivons, nous n'osons plus la confrontation avec les choses.
En fait, c'est le progrès qui fait reculer les hommes, alors que lorsqu'on est au bord du précipice, il faut tout de suite faire un retour en arrière, ce que vous faites vous dans tous vos livres.
Absolument. Il y a une forme de progrès, la seule forme de progrès quand on est au bord du précipice, justement, est ce pas en arrière.
Ah oui, il faut le faire.
Il faut absolument être capable de le faire, de s'apercevoir que cette course compétitive, que cette agression, cette agitation, cette civilisation de l'agitation dans laquelle nous sommes doit être stoppée d'une façon ou d'une autre, et que simplement dire arrêtez-vous une seconde, réapprenez la paresse, l'inaction, l'écoute, des mots qu'on ose à peine dire et que j'ai envie de décrire par un jargon académique, méditer, repenser les choses.
Vous ne seriez pas éloigné de dire que les paresseux sont des artistes.
Mais absolument, c'est la pente la pente ouais. la plus la fatale, plus
belle.
Disons.
La plus belle. Alors là, je reviens à un autre de vos livres, La mort viennoise, qui a obtenu le prix des libraires il n'y a pas si longtemps. Et là, c'est un personnage qu'il vous est facile de rencontrer. Ce personnage, c'est une ville. C'est Vienne. Alors je me demande si vous aviez lu Venise, si vous aviez lu tous les livres qui peuvent être consacrés à des villes, car il n'est pas de plus beau personnage parfois que les villes. Parce
Absolument.
Que les villes comptent tous les personnages, mmh, et toute l'histoire.
Oui, oui, oui. Mais cette ville, j'avais un très ancien dialogue à mener avec elle, oui. par mon histoire personnelle, puisque mon père et ma mère en sont originaires. Et c'est une ville qui m'avait incroyablement fascinée par toutes ses vibrations, sa richesse et
ses voluptés,
ah oui. et qui subitement, en contraste, montre son visage de mort, le visage du fascisme, le visage de la décomposition et de l'horreur nue. Et c'est cette métamorphose, comment ceci peut avoir lieu et comment cette ville de délices peut se transformer en ville de l'horreur. Et c'est un sujet qui me hantait. Et donc, cette ville me poursuivait vraiment comme une femme, comme un personnage, tout à fait. Et ce livre a été, pour moi, la délivrance de cette obsession. Et je me suis confrontée à cette Vienne. Et au lieu de la faire vivre à l'époque fasciste,
17e.
J'ai trouvé un biais allégorique, mais qui était peut-être plus direct encore par les images qu'il m'offrait, parce que j'ai immédiatement eu un autre registre de vibrations,
la
possibilité
du 17e,
de dire,
hein.
oui, la possibilité de dire aussi ce monde baroque, ce monde foisonnant d'une sensualité absolument délirante, mais qui ose la traversée des choses, la traversée de la maladie, la traversée de la mort, la traversée de l'horreur, a une possibilité d'intensité et d'existence dont nous n'avons pas même idée, pas même idée.
Mais la peste du 17e pour vous, c'est le nazisme d'hier.
J'ai essayé de décrire cette peste non pas comme une catastrophe naturelle, mais comme la cristallisation du mépris qu'ont les hommes pour les hommes, une caste pour une autre. En fin de compte, dans cette Vienne baroque, on voit au moment de l'épidémie tous ceux qui ont un cheval et un carrosse quitter la ville en toute hâte et l'abandonner aux mendiants et aux miséreux, aux saints et aux fous qui vont y danser leur sabbat.
Mais vous êtes marqué par Vienne, parce que vous disiez « mon père, ma mère », mais vous êtes revenu. Peut-être
oui,
pas
curieusement,
tout à fait à Vienne, mais en Autriche.
Oui,
et
mais
votre mari est autrichien.
Oui, mais je n'y ai vécu que très, très sporadiquement. Et c'est plutôt un lieu, enfin ça fait partie de la topographie de mon imaginaire.
Alors là, on parle de la mort viennoise. C'est ce livre, l'avant-dernier, et puis il y a le dernier, La guerre des filles. Et cette fois-ci, nous sommes en Bohême, au 7e siècle. Ce sont des filles qui mènent contre les hommes une guerre sans merci. Et on pourrait penser qu'aujourd'hui, cette guerre pourrait être reprise. Alors êtes-vous également la guerrière d'un temps comme le nôtre, c'est-à-dire comme celui du 20e siècle, où les femmes, peut-être, pourraient entamer le combat, commencer le combat
mais
contre les
sûr,
hommes.
Bien sûr, bien sûr. Pas contre les hommes, mais contre la forme d'existence oui. que les hommes ont imposée au monde. Parce
c'est
qu'il est
chose.
Évident que nous aurons, que les meilleurs seront avec nous.
Ah oui.
Il n'y a pas cela, je crois que...
C'est une forme de fierté aussi.
Absolument, absolument. Ce que j'ai essayé, vous savez, après des années d'un discours déploratif sur la condition féminine, enfin tout à fait justifié, mais très déploratif, j'ai essayé de retrouver un discours de fierté, un discours de force, de grandeur. Et ces femmes, je ne crois pas qu'elles se battent de gaieté de cœur contre ces hommes, mais ce qui s'est passé, c'est que deux univers... comment se sépare et que, au moment où débute mon livre, les femmes rompent avec l'univers des hommes. Les hommes se sont mis à flirter avec Rome et Byzance, avec le rêve de l'État, avec le rêve de l'ordre. Ils commencent à flirter avec l'homme historique, une perspective d'histoire. Et ces femmes, elles, restent fidèles à toutes les vibrations initiales, à ce monde païen, à cette reine Libussa qui leur avait appris la fierté, qui leur disait comme aucune reine, à part peut-être dans l'Ancien Testament, le roi des Juifs, qui au moment où les Juifs, le dieu des Juifs, qui au moment où les Juifs veulent un roi, les met en garde et leur dit « Mais pourquoi un roi ?» Et ils veulent être comme les autres peuples. Et c'est le début d'une chute. l'entrée dans le réseau d'autorité. Et les hommes rêvent de ce changement. Et ils le commencent. Mais les femmes ne le veulent pas parce qu'elles gardent cette fidélité aux forces qui les entourent, à cet univers tout à fait vibrant de Dieu, de dryade, de...
Et d'hier.
Non, vous croyez, il continue à vivre en nous. Et je pense justement que les femmes, par le sort historique qui a été le leur et qui a été évidemment un sort très opprimé, ont eu en somme tout de même une chance prodigieuse, c'est de garder vivante en elles des rites, des rythmes, des forces qui, du fait qu'elles n'ont pas eu accès au pouvoir, sont restées vivantes en elles. Et je crois qu'on ne doit pas toujours le voir d'une façon négative, cette exclusion du pouvoir. Regardez ce que sont devenus ces hommes à l'intérieur du pouvoir. Enfin, insignifiants.
Oui, mais par exemple, il y a cette guerre des filles, ces filles qui entrent en citadelle, c'est-à-dire qui entrent totalement en révolte. On pourrait imaginer aujourd'hui des filles qui entrent en citadelle, c'est-à-dire... Pourrait-on dire que vous, Christiane Singer, vous avez réinventé le féminisme ?
Vous savez, le féminisme est un foisonnement de possibilités très
diverses. Les hommes étant des esclaves.
Et il y a une part de féminisme avec laquelle je peux parfaitement m'identifier, c'est celle de la force des femmes et d'un rôle que les femmes ont à développer et une force qu'elles ont à apporter au monde et qu'elles sont seules à pouvoir apporter. Et dans ce sens-là, oui, j'ai envie absolument de réveiller dans les femmes ces forces qui sont en elles et de leur redonner le courage de vivre sans intermédiaire, de retrouver contact avec, justement, leur corps, les rythmes de la nature, le monde qui les entoure, les autres règnes dont nous faisons partie. Notre corps ne s'arrête pas à ce qui est charnel. Nous sommes arbres, nous sommes plantes, nous sommes pierres, nous sommes le vent, nous sommes tout. Nous participons de tout un univers. Et tout cela a été évidemment complètement détruit par la forme d'existence que nous menons. Et nous sommes devenus des estropiés par rapport à ces possibilités.
Des robots.
Et les femmes, par le rapport qu'elles entretiennent encore avec leur corps, avec la naissance, qu'elles ont entretenue pendant des siècles avec la maladie, la mort, ont cette possibilité, une possibilité supérieure à celle des hommes d'entrer en contact avec ces forces-là. Et ce sont celles-là qu'il faut réveiller. Et c'est cette foi en soi qui doit être réveillée chez les femmes, et non pas le désir de s'inscrire dans un univers de pouvoir, un univers dégradé que nous devons tenter de briser, et non pas auquel nous avons à faire l'honneur de prendre part.
Mais on comprend très bien vos obsessions, Christiane Singer, parce que, en fait, vous n'aimez pas tellement tous ces hommes ou toutes ces femmes qui se croient libres et qui plient actuellement devant toutes les modes.
Absolument, absolument, sans se rendre compte à quel point ils participent, justement, comme nous disions au début, du rêve de quelques-uns, du rêve vénal de ceux qui ont intérêt à les faire rêver ce rêve-là.
Je reviens une seconde à Vienne. Vous pourriez écrire sur Marseille comme vous avez écrit sur Vienne ? Non, il n'y aura pas le même cœur.
Un tout autre livre. J'aime mon Marseille éperdument. Mais j'ai pas les mêmes fantasmes liés à cette ville. Il n'y a que moi à Marseille. Et à Vienne, il y a des générations derrière moi.
Mais à Marseille, il y a peut-être...
Mais il n'est pas du tout exclu
que vous écriviez sur Marseille. Il y a peut-être vos livres à Marseille. C'est la première rencontre quand même avec des livres. Vous êtes resté jusqu'à quel âge à Marseille ?
Oh, j'ai fait mes études à Aix-en-Provence, jusqu'à 25 ans. Je suis une vraie Marseillaise.
Parce que vous disiez quelque part que la mort de Lucienne Rubempré et le suicide de Werther vous marquaient plus profondément que la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie.
Je parlais du type d'enfance préservée
que j'ai menée total.
Et qui m'a coupée à cette époque du vécu de ma génération. Oui. Mais j'ai eu tendance à une époque très politisée de le déplorer, de regretter de n'avoir pas dès l'abord participé en pensée, du moins, et en passion aux luttes de mon époque. En y repensant, je ne suis plus du tout de cet avis. Je crois que l'être humain a deux univers. C'est l'univers mythologique et l'univers historique. L'enfance est le lieu privilégié qui met en rapport avec l'univers mythologique, dont nous faisons partie comme de tout le reste. Et si j'avais eu une enfance beaucoup plus marquée historiquement, beaucoup plus politisée, j'aurais raté cette dimension avec laquelle aujourd'hui je renoue. Je pense que le drame des hommes de notre époque est de ne pas savoir marier ces deux univers. Il y a eu une époque comme la Renaissance où il n'était pas exclu d'être un savant comme Léonard de Vinci et d'être un kabbaliste et un magicien.
Un savant, un inventeur.
Oui, absolument. Enfin, c'était des univers qui étaient tout à fait conciliable. Newton était lui-même un kabbaliste, l'inventeur de la physique expérimentale. Ce sont des choses qui, pour l'homme d'aujourd'hui, ne sont pas pensables. Or, si nous ne nous meuvons pas dans ces deux univers, et de façon aussi passionnée dans l'un et dans l'autre, dans l'univers du mystère et celui de la science n'étant que l'analyse très superficielle de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher. Et si nous ne combinons pas ces deux approches de l'univers, nous continuerons d'être des êtres brisés.